Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 13h à Paris, midi en temps universel.
RFI Midi. Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans RFI Midi, une heure d'information le week-end à la mi-journée avec une première demi-heure internationale avant Afrique Midi, chronique, reportage invité. On commence avec le journal. À la une, la colère de Donald Trump. Le juge de l'affaire Stormy Daniels dira le 10 janvier à quelle peine le président élu est condamné. 10 jours avant son investiture. Également dans ce journal, le bilan de la visite hier à Damas des chefs des diplomaties allemandes et françaises. Le pic des émissions de CO2 attendu cette année en Chine, c'est plus tôt que prévu. Et puis la chasse au loup lancée en Suède.
RFI Midi.
À suivre encore dans cette demi-heure, le début de l'hommage national à Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis, mort à 100 ans dimanche dernier. Carter et Trump, deux présidents que tout oppose, on verra ça avec notre invité. Vénus, capitale verte de l'Union Européenne, la nature y occupe 61% de la surface de la ville. Et puis, dans la chronique transport, on verra comment l'héritage colonial en Afrique est un frein au développement du train. C'est comme si on venait, c'est comme si on voulait lui gâcher sa fête alors que commencent aujourd'hui aux États-Unis les funérailles nationales de Jimmy Carter, l'ancien président décédé dimanche dernier. Donald Trump n'est pas content parce que les drapeaux seront en berne le jour de son investiture, le 20 janvier. Pas content non plus Donald Trump parce que 10 jours avant sa cérémonie, la justice dira à quelle peine il est condamné dans l'affaire Stormy Daniels de l'argent versé en secret pour étouffer un scandale sexuel juste avant la présidence. De 2016. En mai dernier, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Et donc hier, quand un juge new-yorkais a annoncé qu'il rendrait sa décision le 10 janvier, Christophe Pagier, Donald Trump s'est beaucoup énervé.
Oui, le juge Merchan est un partisan extrémiste et sans respect pour la Constitution. Tout cela est une attaque politique illégitime qui n'est rien d'autre qu'une mascarade. Donald Trump est furieux. Le verdict du procès dit Stormy Daniels n'a pas été annulé malgré les efforts de ses avocats qui invoquaient son statut présidentiel. Laurie Kenton, spécialiste de l'histoire et de la civilisation américaine.
Il pensait que ce serait repoussé après l'investiture et donc que ce serait rendu caduque par l'investiture. Ça ne l'est pas. Et c'est pas considérablement important. C'est l'affaire la moins importante des quatre dans lesquelles il était poursuivi. On sait qu'il ira pas en prison. On sait que la peine sera pas quelque chose de vraiment embêtant dans l'exercice de sa présidence. Donc c'est vrai qu'il pourrait aussi voir le verre à moitié plein et se dire j'ai gagné 4 ans à la Maison Blanche. Tout ça n'est quand même pas très important. Mais évidemment, ça ternit un petit peu son triomphe et donc, il est pas content.
Donald Trump reste donc le premier ex-président américain à être condamné au pénal. Vendredi prochain, pour connaître sa peine, il devra soit se présenter en personne au palais de justice dans le sud de l'île de Manhattan, soit le faire à distance par vidéo. Le milliardaire a jusqu'à demain dimanche pour donner sa préférence.
Christophe Pagé, Donald Trump a quand même de quoi se réjouir puisque c'est son candidat qui remportait hier la présidence de la Chambre des représentants, l'une des deux chambres du Congrès à Washington. Mike Johnson a été réélu au poste de speaker. De son côté, Joe Biden, qui passe ses derniers jours à la Maison Blanche, va distribuer aujourd'hui toute une série de décorations et parmi ceux qui vont être récompensés, le footballeur Lionel Messi, la primatologue Jane Goodall ou encore l'ancienne candidate à la présidentielle qui avait perdu face à Donald Trump, Hillary Clinton. Dernier jour de mandat pour Joe Biden et une de ses dernières décisions passe mal du côté du Japon. Au nom de la sécurité nationale des États-Unis, Joe Biden hier a mis son veto au rachat du géant de l'acier américain US Steel par le géant japonais Nippon Steel. À Tokyo, Frédéric Charles.
La décision de Joe Biden envoie un message effrayant à toute entreprise basée dans un pays allié qui envisage d'investir aux États-Unis, avertit Nippon Steel. Le premier ministre japonais Shigeru Ishiba avait prévenu qu'un blocage de l'accord pourrait nuire aux relations entre les États-Unis et le Japon. Des relations que Joe Biden s'était pourtant efforcé d'améliorer pour contrer la montée en puissance économique et militaire chinoise. Les dirigeants du Parti communiste chinois dansent dans les rues, s'exclame le patron de US Steel, David Burritt. L'acquisition de US Steel par Nippon Steel aurait donné naissance au numéro 3 mondial de la sidérurgie. Le Japon est le premier investisseur étranger aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux japonais, nombreux sont les Japonais à se sentir trahis par les États-Unis. Le Japon est leur allié le plus fidèle, mais le gouvernement américain ne fait pas de différence entre le Japon et la Chine dans sa guerre économique contre les géants chinois, s'indignent des internautes. Comment peut-on encore faire confiance aux Américains pour nos investissements et notre sécurité militaire? Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Des milliers de manifestants à Séoul, aujourd'hui au lendemain de la tentative avortée d'arrêter le président destitué Yoon Suk-yeol, avec deux cortèges différents, les partisans du président déchu et puis ceux qui, au contraire, veulent qu'il soit arrêté. 59 morts en 24 heures dans la bande de Gaza, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé du Hamas. La défense civile palestinienne, de son côté, annonce la mort de 19 Palestiniens ce matin dans plusieurs frappes israéliennes. 19 tués, dont 8 enfants. Et après les frappes, toujours selon la défense civile palestinienne, des drones israéliens ont tiré sur des ambulances. L'armée israélienne a aussi mené cette nuit un raid en Cisjordanie dans un camp de réfugiés de Naplouse. Un jeune homme de 18 ans a été tué. Il y a eu aussi 9 blessés dans ce que l'armée israélienne appelle une opération antiterroriste. Le retour à la vie normale, peu à peu en Syrie, près d'un mois après la fuite de Bachar el-Assad. Les autorités viennent d'annoncer la réouverture de l'aéroport de Damas aux vols commerciaux internationaux. À partir de mardi, hier, Damas accueillait la visite des chefs des diplomaties allemandes et françaises. Ils ont rencontré le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Shara, et parmi toutes les promesses du nouveau pouvoir syrien, une solution politique pour les Kurdes de Syrie, Nicolas Roca.
Dissoudre toutes les factions armées, dont HTS, pour les unir sous la bannière de l'armée syrienne. Ahmad al-Shara a promis d'unifier tout le pays, mais l'accord d'intégration des groupes armés ne concerne pas pour l'instant les forces démocratiques syriennes, ou FDS, dominées par les Kurdes et qui tiennent une grande partie du nord-est de la Syrie, une région où les bombardements des groupes rebelles alliés de la Turquie se poursuivent. Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec le chef des FDS avant de se rendre à Damas, où il s'est exprimé ce vendredi.
Les armes doivent se taire dans le nord du pays. C'est pourquoi une solution politique doit être trouvée avec les alliés de la France que sont les Kurdes pour qu'ils soient pleinement intégrés dans ce processus politique qui s'engage aujourd'hui. Et le cessez-le-feu doit être durable et pérenne.
Même son de cloche du côté d'Annalena Baerbock, chef de la diplomatie allemande.
L'implication de tous les groupes dans le processus politique est essentielle, comme l'est la sécurité des Kurdes. Cela nécessite la fin des combats dans le nord, de sérieuses garanties de sécurité pour les Kurdes, ainsi que l'intégration des forces kurdes.
Des négociations ont débuté cette semaine entre le nouveau pouvoir à Damas et des représentants des forces kurdes, sans déboucher sur des annonces concrètes pour l'instant.
RFI, il est 13h08 à Paris. Une bonne nouvelle pour le climat. La Chine, le plus gros pollueur au monde, devrait atteindre cette année son pic d'émissions de gaz à effet de serre plus tôt que prévu. Alors même, Lucille Gimbert, que la Chine vient d'enregistrer en 2024 l'année la plus chaude de son histoire.
Oui, c'est l'année la plus chaude depuis le début des relevés locaux d'observation en 1961. D'ailleurs, d'après l'administration météorologique chinoise, les 4 dernières années ont été records dans le pays et les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites au 21e siècle. Cela veut dire durant ces 24 dernières années. Preuve, s'il en fallait encore, du réchauffement mondial en cours causé par notre utilisation du gaz, du pétrole et du charbon. Cette année, concrètement, le changement climatique s'est traduit pour les Chinois par des vagues de chaleur prolongées, des inondations meurtrières et des pluies intenses qui ont notamment provoqué l'effondrement d'une autoroute. Juste devant les États-Unis, le géant asiatique est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre responsable de ce réchauffement en cours. Mais ses émissions par habitant sont moindres que celles de nombreux pays comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne ou le Japon. Et la Chine a développé en une vitesse record les énergies renouvelables, solaires et éolien en tête, au point qu'elle pourrait atteindre, vous le disiez, en avance et dès 2025, le pic de ses émissions. Reste à savoir si Pékin enclenchera ensuite une baisse de ses rejets carbone.
Lucille Gimbert, après le climat, on va parler de la biodiversité dans ce journal avec l'ouverture de la chasse au loup en Suède. L'ancêtre du chien est désormais moins protégé au sein de l'Union européenne. Et la volonté des autorités suédoises de diviser par 2 le nombre de loups passe mal à Stockholm, Ottilia Ferré.
Magnus Orebrand, président de l'association suédoise des carnivores, voit cette chasse annuelle comme une infraction à la législation européenne qui dure depuis 2010. Il n'a de cesse de marteler que le prédateur est en théorie, en tout cas, une espèce menacée.
Nous avons déposé une plainte officielle en 2011 qui n'a toujours pas été traitée par l'Union européenne. Ici, les politiques veulent montrer qu'ils se préoccupent des zones rurales et pour cela, il faut détester le loup. Mais ce n'est pas un réel problème, ce n'est que de la politique. Le lobby de la chasse a énormément de pouvoir, il s'infiltre un peu partout. On a aujourd'hui un premier ministre, une vice-première ministre et un ministre des Affaires rurales qui sont des chasseurs dévoués. Évidemment que cela influence la politique et que ça entache la Suède.
Le loup joue pourtant un rôle clé dans l'écosystème en Suède. Magnus explique que réduire leur nombre pourrait mener à leur perte. Il faudrait plutôt importer plus de loups car ils sont déjà menacés par la chasse illégale et les problèmes de consanguinité. Pour Mikael Samuelsson, vice-président de l'Association suédoise des chasseurs, il en est hors de question.
C'est une tradition, un style de vie pour nous la chasse. On a maintenant des loups partout en Suède et c'est un vrai problème pour les éleveurs. Même si on installe des clôtures anti-prédateurs, ça ne suffit pas. Et si on devait enfermer le bétail, ça coûterait très très cher. Notre but, c'est d'avoir le moins de loups possible, 150 maximum.
Et il se pourrait bien qu'il obtienne gain de cause, car dès mars 2025, le statut de protection de l'animal sera rabaissé. De quoi faciliter encore plus son abattage. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
RFI Midi, les 13h11 à Paris, au programme de ces 20 prochaines minutes avant Afrique Midi, l'hommage national à Jimmy Carter aux États-Unis. Les trains en Afrique, Vilnius, capitale verte de l'Europe cette année, puis une performance artistique très étonnante, un discours où les mots sont remplacés par des cris d'animaux, mais d'abord les sports. Là, le journal des sports, bonjour Olivier Pron.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Et pour commencer cette année, ce premier week-end de l'année, il y a la reprise des championnats de football. On va commencer par l'Espagne, Olivier, où le Real Madrid est de retour en tête de la Liga.
Ouais, après une victoire à l'arraché à Valence, Florent, en match en retard, en fait de la 12e journée, hein, c'était début novembre qu'il aurait dû se jouer ce match. Et on comprend pourquoi Valence était impraticable à ce moment-là, après les inondations, des merengues renversants, hein, pour le moins vainqueur 2-1, après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 85e minute. Et à 10 contre 11, après l'expulsion de Vinicius à la 79e, Luka Modric et Jude Bellingham se sont chargés ensuite de retourner la situation. Un Real qui reprend donc le pouvoir avec deux longueurs d'avance sur l'Atlético, qui compte un match en moins. Le Barça est troisième à 5 points des Blaugrana, qui jouent en 16e de finale de la Coupe du Roi ce samedi, face au club de 3e division de Barbastro.
En France, maintenant, Olivier, la 16e journée de Ligue 1 qui a démarré avec la victoire de Nice à domicile.
Ouais, les Aiglons l'emportent 3-2 face à Rennes, c'était hier soir. Ils se hissent provisoirement à la 4e place de l'élite. 3 nouveaux matchs à suivre aujourd'hui, du dernier au premier. Lyon, Montpellier, 20h, temps universel. Lille, Nantes, 18h, TU. Et à 16h, Reims, 10e, se déplace à Saint-Etienne, qui est barragiste. Des Rémois protégés devant leur but par Yevan Diouf, peut-être. Futur gardien également d'une certaine tanière. Le natif de Montreuil en région parisienne a en effet choisi de devenir international sénégalais. Le Sénégal d'où son père est originaire. Décision prise après discussion avec l'actuel sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiou.
Je l'avais rencontré avant la trêve de novembre et on avait échangé sur pas mal de sujets, notamment la sélection. Et moi, j'avais dit que voilà, j'étais prêt à venir avec la sélection s'il se sentait nous sélectionner, que je venais sur la pointe des pieds, quoi, comme n'importe quel joueur, et j'étais prêt à occuper n'importe quel poste pour la sélection. C'est un choix du cœur qui me définit aussi. Après, moi, j'ai toujours dit que forcément, je suis métis, j'ai les deux. Je suis autant français que sénégalais. J'ai souvent eu l'occasion, de par mon papa, de pouvoir retourner au Sénégal. Donc, j'ai des liens assez forts avec ce pays, et c'est pour ça que je mets les deux sur au même niveau.
Yevan Diouf qui devrait être officiellement convoqué pour la première fois en mars avec le Sénégal à l'occasion de la reprise des qualifications pour le Mondial 2026. Une 16e journée de Ligue 1 que suivent depuis Doha au Qatar le PSG et Monaco qui s'apprêtent eux à disputer demain le si passionnant Trophée des Champions. Un mot de foot italien, duel 100% milanais en finale de la Supercoupe d'Italie lundi, cette fois ce sera à Riyad, pas très loin de Doha. Le Milan AC rejoint l'Inter hier soir après sa victoire victoire 2-1 sur la Juventus Turin.
Du basket enfin, Olivier, Paris, plus que jamais à la peine en Euroleague.
Ouais, fini le temps où le club de la capitale surprenait le continent pour sa première saison dans cette compétition. Quatrième défaite de rang hier à l'occasion de la 19e journée. 90-79 face au FC Barcelone de l'expérimenté pivot sénégalais. Tiens, encore un sénégalais dans ce journal. Youssoupha Fall, 4 points, 7 rebonds en 12 minutes. Le géant de 2m21 qui a évoqué sa saison compliquée avec Victor Missistrano.
Avec des hauts et des bas, c'est un grand club, il y a beaucoup de grands noms, faut juste s'adapter par rapport au coach, ce qu'il veut faire. J'essaie juste de m'adapter à, par rapport à lui. Ouais, le basket en Espagne est différent du basket de France, donc j'essaie juste de m'adapter. Après maintenant, j'ai beaucoup d'expérience, c'est ma 6e année en Euroleague, je connais presque tous les joueurs, donc j'essaie juste de m'adapter et avancer.
Youssoupha Fall qui avance donc et qui s'adapte, conséquence de sa défaite. Paris glisse à la 4e place, le Barça est 10e.
Merci Olivier Pron, il est 13h15 à Paris. 39 coups de cloche pour le 39e président des États-Unis. Ce sera tout à l'heure à Plains, sa ville natale en Géorgie. Commenceront les 6 jours d'hommage national à Jimmy Carter, mort dimanche dernier à l'âge de 100 ans, avant un hommage final jeudi prochain à Washington. Ce sera 11 jours avant l'investiture de Donald Trump. Trump, Carter, deux présidents que tout oppose. Bonjour Vincent Michelot.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon, vice-président chargé des relations internationales à l'École normale supérieure de Lyon. 6 jours d'hommage national pour Jimmy Carter. Est-ce que ça correspond à un protocole très précis établi depuis des décennies ou bien est-ce que l'hommage à un ancien président dépend aussi de l'administration en place, en l'occurrence ici du gouvernement Biden ?
Elle dépend de l'administration Biden d'une certaine mesure, mais aussi de la famille de Jimmy Carter. Et donc là, on est sur un protocole qui est tout à fait traditionnel, avec une partie entièrement dédiée à sa carrière longue en Géorgie, et puis évidemment un hommage national qui se tiendra à Washington dans ces lieux mémorables que sont notamment la cathédrale.
Alors, selon ce protocole, les drapeaux seront en berne pendant 30 jours. Ils seront donc en berne le jour de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, ce qu'il a regretté amèrement hier. Est-ce que sa réaction vous étonne ?
Non, mais je crois qu'il ne faut pas porter trop d'attention à ce type de déclaration. Tout oppose les deux hommes, et donc il n'est pas surprenant de voir Donald Trump s'offusquer que les drapeaux soient en berne le jour de son inauguration.
Tous les opposent, et le style d'abord.
Oui, bien sûr, on a d'un côté un homme égocentrique et de l'autre côté quelqu'un qui incarne le désintéressement et l'altruisme. On a d'un côté un homme qui voit les relations internationales et le politique au jour le jour d'une manière très transactionnelle, alors que Jimmy Carter s'inscrit dans l'histoire longue des relations diplomatiques des États-Unis avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, avec la Chine ou encore avec la Russie. Et donc, évidemment, on est dans une étude de contraste qui est saisissante.
La question du multilatéralisme dans les relations étrangères, c'est vraiment la clé qui distingue les deux présidents ?
Oui, c'est le multilatéralisme, mais c'est surtout cette idée que Rome ne s'est pas construit en un jour, et que donc, par exemple, lorsque finalement le mur de Berlin tombe, on le crédite souvent à Ronald Reagan, mais c'est Jimmy Carter qui met en place les bases de cette chute de l'URSS. Et de la même façon, lorsque
on a beaucoup dit que c'était surtout Ronald Reagan avec la guerre des étoiles.
Oui, bien sûr, mais justement, mais il le fait sur des bases à la fois militaires et diplomatiques qui ont été largement mises en place pendant la présidence de Jimmy Carter, et il est très peu probable que l'URSS se soit effondrée aussi rapidement si le président Carter n'avait pas fait les efforts qu'il a fait, notamment en matière de budget militaire, ce qui est une forme de paradoxe par rapport à ce qu'on écrit traditionnellement sur lui.
À propos de la paix et de la question du Proche-Orient, il y a l'exemple iranien, on s'en souvient, la fin de la présidence Carter est marquée par la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. On avait d'ailleurs accusé Jimmy Carter de faiblesse. Ça lui aurait même coûté sa réélection face à Ronald Reagan. Est-ce que 40, plus de 40 ans après, cette analyse est encore juste selon vous, alors que face à l'Iran, aujourd'hui, Donald Trump joue la carte de la confrontation?
La question n'est pas véritablement de savoir si Jimmy Carter a fait preuve de force ou de faiblesse. Il est face à une crise tout à fait inédite dans la diplomatie américaine, à savoir la prise d'otage des employés de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'est une crise qui va durer 444 jours, qui va être marquée par l'échec d'une opération militaire de libération des otages, avec des images terribles d'hélicoptères qui sont entrés en collision dans le désert. Et effectivement, c'est un des nombreux éléments qui a pu coûter sa réélection à Carter en 1980. Mais il ne s'agit pas du seul élément qui puisse expliquer cette défaite.
Merci beaucoup, Vincent Michel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
RFI Midi.
On va prendre le train dans la chronique transport aujourd'hui. Le train en Afrique, mais on va voir que c'est très compliqué. Avec un passionné des trains, Clive Laming, qui a publié une histoire insolite des trains. Il est au micro de Marina Mielzarek.
Clive Laming, bonjour.
Bonjour.
Bravo pour la nouveauté. C'est un ouvrage très très agréable à lire, l'histoire insolite des trains. Vous abordez un sujet qui va plaire à tous nos auditeurs sur Radio France Internationale, c'est l'histoire des trains en Afrique.
Le continent entier est très mal desservi. C'est à peu près la même situation que l'Amérique du Sud. Des pays qui ne se sont jamais développés parce qu'ils n'ont jamais pu faire de l'international à une grande échelle. Les tout premiers réseaux ont été construits par la France, Algérie, Tunisie, Maroc, en écartement standard d'ailleurs. Une très bonne chose.
L'écartement standard,
c'est 1,435 m, c'est l'écartement des rails qui permet en somme aux trains de circuler, et ils peuvent aller d'un pays à l'autre si les deux pays voisins ont le même écartement. Alors ce qui fait que toute l'Europe l'avait, la France a construit en Algérie, Tunisie, Maroc et le Royaume-Uni en Égypte un réseau à l'écartement standard. Mais tout le reste de l'Afrique est dans des écartements différents. Alors vous avez un pays comme l'Afrique du Sud, très riche, très industrialisé, mais dans un écartement colonial anglais qui fait que ce pays ne peut pas commercer avec le centre de l'Afrique ni avec le nord.
Il y a eu en projet avec l'Union africaine un maillage de voies ferrées sur tout le continent africain.
Oui, ce projet existe, il ressort de temps en temps, mais je crains, hélas, qu'il ne ressorte jamais vraiment. Les Chinois sont d'ailleurs les apôtres du chemin de fer classique. Ils construisent en Afrique des lignes tout à fait nouvelles, en Éthiopie par exemple, sur des chemins de fer classiques. Et ça marche très bien.
Vous saluez cet entrisme, on peut le dire, des Chinois en Afrique?
Oui, c'est un entrisme ferroviaire. Un des obstacles pour l'Afrique, c'est le financement. Le chemin de fer coûte très cher, même en France, vous savez. Une ligne de TGV coûte 20 millions d'euros le kilomètre. Donc beaucoup de pays ne peuvent pas financer. Alors les Chinois ont une méthode qui est classique, qui est en Grèce par exemple.
Voilà, mais oui. Sauf que ça endette le pays.
Ça endette le pays, mais enfin, en attendant, ils ont quand même quelques réussites magnifiques, comme le chemin de fer de Sierra Leone en Afrique.
Votre ouvrage parle aussi des métiers. Ceux qui veulent du moderne vont voir les photos modernes, ceux qui veulent des archives vont voir les archives un peu plus anciennes. On parle de l'aiguilleur dans votre livre, mais on ne parle pas des nouveaux métiers.
Il y a beaucoup de nouveaux métiers, parce que l'informatique s'est chargée finalement du travail des aiguilleurs, mais il faut quand même aller graisser les aiguilleurs sur les voies. Donc finalement, le train est resté très traditionnel. Beaucoup d'ingénieurs des grandes écoles s'intéressent au chemin de fer.
Ce qui est bien avec vous, Clive Lalming, c'est qu'on voit toutes les images, plein de couleurs. Il peut parler aux enfants comme aux adultes. Donc, l'histoire insolite des trains aux éditions Alivio.
Merci beaucoup.
Clive Lalming au micro de Marina Mielzarek. Il est 13h24 à Paris. Une page Lituanie maintenant dans RFI Midi avant de retrouver une artiste lituanienne à l'honneur à la Biennale de Lyon. On va d'abord aller à Vilnius, la capitale de la Lituanie est aussi cette année en 2025 la capitale verte de l'Union européenne. La ville de 600 000 habitants espère même atteindre dans 5 ans la neutralité carbone. Reportage de Marielle Vituro.
Vu du ciel, Vilnius est une ville verte. 61% du territoire est recouvert par la nature. On trouve même une forêt en plein centre-ville. Yekaterina Lavrinets, anthropologue.
Vilnius a sa couronne verte, des plantations qui entourent la ville et qui sont visibles de nombreux endroits de la ville. Au début du XXe siècle, on plantait encore des allées à Vilnius, ce qui a incité à se déplacer à pied dans la ville.
La ville a obtenu ce titre pour les efforts faits dans différents domaines comme la qualité de l'air, l'adaptation de la ville au réchauffement climatique ou la diversité biologique. Yoga Mikutiene est responsable du projet de capitale verte.
Nous cherchons à préserver la faune et la flore à divers endroits. Et notre décision de ne pas tondre tous les espaces verts, comme c'est habituel, a été très remarquée.
La municipalité a aussi réduit la largeur de certaines voies pour faire de la place aux piétons et aux vélos. Comment mieux se déplacer dans la ville est l'une des grandes préoccupations de la municipalité. Silvestras Dikčius, formateur en développement durable.
Il y a 5 ans, la ville a restreint le flux de voitures pouvant circuler dans le centre. Pour moi, ça a permis aux gens de comprendre que se rendre partout en voiture n'est pas forcément un mieux.
Plus d'une centaine de kilomètres de pistes cyclables relient désormais les différents quartiers de Vilnius, une ville très étendue. Les transports en commun sont de plus en plus écologiques. Jurga Mikutiné.
Les trolleybus sont des bus reliés par des antennes à un réseau électrique. Maintenant, nous avons des véhicules qui rechargent leurs batteries en roulant connectés au réseau. Ils peuvent être autonomes pendant un certain temps et ainsi, il n'y a aucune émission de CO2.
Néanmoins, tout n'est pas rose pour l'anthropologue Yekaterina Lavrinets.
Les surfaces dures augmentent dans la ville. De plus en plus d'espaces verts disparaissent pour faire place à de nouveaux quartiers. C'est dû au modèle économique. Les prêts immobiliers sont bon marché et la demande est là.
Durant cette année où Vilnius sera la capitale verte de l'Europe, l'accent sera mis sur la communication et la sensibilisation à l'écologie. En 2030, Vilnius a l'ambition de devenir neutre du point de vue climatique. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Et quand Vilnius vient à Lyon, en France, c'est jusqu'à demain la Biennale d'art contemporain. Et parmi tous les artistes à l'honneur, la lituanienne Lina Lapelytė pour sa performance intitulée « Le discours ». Un discours sans mots, mais avec des cris d'animaux. José Marinho.
Dans The Speech de l'artiste lituanienne Lina Lapelytė, des gosses singent des cris de bêtes en courant dans tous les sens. Cette vidéo, filmée à la Bourse du Commerce de Paris et présentée à l'intérieur d'un conteneur à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, donne la voix à ceux qui n'ont pas, enfants comme animaux.
First of all, I thought of this like a noise piece.
L'idée, c'était d'avoir une œuvre produite par des enfants. Je voulais leur permettre d'imaginer un animal et de faire quelque chose qui soit différent de ce qu'on trouve dans les livres, par exemple le cocorico, de sortir de ce qui est attendu. Et je me suis rendu compte qu'en s'éloignant de l'interprétation humaine qu'on connaît, on pouvait obtenir quelque chose de très abstrait et à la fois très beau. Pour moi, les enfants sont plus proches de la nature que ne l'est l'adulte. Puis il y avait également cette idée de la voix qu'on donne aux enfants, la question de leur futur, de leur avenir. Je trouve que aujourd'hui, finalement, le langage nous manque, on n'a pas toujours les mots.
Performance, musique et installation se confondent constamment dans son travail. Née en 1984 en Lituanie, passée par le Royal College de Londres, où elle étudie les arts du son et du spectacle, Lina Lapelytė remporte le Lion d'or de la Biennale de Venise en 2019 avec Sun and Sea. Dans cet opéra, un groupe de baigneurs en bikini chante sur une plage artificielle le désastre climatique. Reconsidérer notre place dans le monde, c'est son but, et The Speech l'illustre parfaitement. Bien qu'elle s'intéresse intitule le discours en français, sa nouvelle création suggère l'échec de la parole.
Quand on regarde les deux dernières années de situation politique avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, on voit finalement que le langage ne joue pas son rôle et qu'il nous manque des mots. On n'a pas réussi à trouver un accord. Et donc je me dis que peut-être on devrait arriver à proposer un autre langage.
The Speech est le résultat d'un travail amorcé par l'artiste depuis 2010 sur la transformation de récits personnels en voix collective. Il révèle aussi une scène artistique lituanienne où l'art non institutionnel ne demande qu'à être encouragé.
Pour moi, ce n'est pas vraiment l'art qui peut changer les choses, mais plutôt les actes et la politique.
Dans une époque obsédée par le contrôle, The Speech de Lina Lapelité est un plaidoyer pour le lâcher prise et un adieu au langage humain trop individualiste.
Reportage de José Marigno. On arrive à la fin de cette première demi-heure de RFI Midi réalisée par Hélène Avril avec Naja Daguerre de La Cellule invitée et à la rédaction en chef Benoît de Solmignac et Nicolas Brousse. Mais RFI continue. Dans quelques secondes, ce sera toute l'actualité africaine.